Notre question d'environnement, comme chaque matin. Bonjour Simon Rosé.
Bonjour.
Vous nous parlez aujourd'hui du lancement à nouveau reporté du dernier satellite de l'Agence spatiale européenne, satellite d'observation de la Terre, Sentinelle 1C. Sa mise en orbite prévue initialement mardi soir a été repoussée à aujourd'hui, normalement 21h20, temps universel, un engin pour l'étude environnementale et climatique, notamment à l'heure où le secteur spatial est de plus en plus montré du doigt pour son mauvais impact. Alors Simon, c'est notre question ce matin, l'espace est-il bon ou non pour le climat? Mais avant d'y répondre, en quelques mots, c'est quoi ce satellite Sentinelle?
Eh bien, ce n'est pas un engin qui prend des photos. Lui, il fait de l'imagerie radar. Ces données vont permettre de recueillir des informations sur tout ce qui concerne l'altitude, la composition et les mouvements du sol, les séismes et glissements de terrain, mais également l'étendue de la banquise et des glaciers. Ces instruments sont si précis qu'il est même capable de voir les déversements de pétrole et autres contaminants depuis l'espace. Il fait partie de Copernicus, vous avez peut-être déjà entendu ce nom sur l'antenne, c'est le programme européen d'études de la Terre depuis l'espace.
Et justement, l'étude de la Terre depuis l'espace, en quoi ça consiste ?
Eh bien, si on reste dans le programme Copernicus, on a Sentinelle 1 donc, mais également Sentinelle 2 qui permet d'étudier comment sont occupés les sols. Il peut déterminer quel type de végétation y pousse, si elle est en bonne santé ou non. Sentinelle 3 observe lui plutôt les océans. Le 4 plus de la météorologie et du traçage de gaz polluants, etc. Il y a tout un tas d'applications qui sont essentielles aux climatologues. On a coutume de dire que pour travailler, ils ont besoin de 50 observables, 50 jeux de données, tels que l'étendue de la banquise, la concentration en CO2 dans l'atmosphère, la vitesse d'élévation du niveau des océans. Eh bien, sur ces 50 observables, 26 ne sont accessibles que depuis l'espace. Être en orbite permet en effet d'avoir une vision bien plus globale qu'une station de mesure installée quelque part au sol et permet également d'avoir un historique de données sur plusieurs années. Les satellites sont donc des outils indispensables pour comprendre le climat et son évolution.
Mais pourtant, Simon, les mettre en orbite, ça n'est pas une activité anodine.
Non, en effet, on va parvenir ici sur les milliers de satellites qui composent les constellations de télécommunications, comme le programme Starlink de SpaceX. En deux mots, il y en a tellement que cela augmente le risque de collision en orbite et pollue le ciel nocturne, notamment les clichés du ciel pris par les télescopes au sol. On va parler là de la pollution de la haute atmosphère, notamment au moment où on désorbite les satellites afin qu'ils brûlent en percutant les couches d'air. C'est un phénomène négligeable quand il s'agit de 3 ou 4 engins, mais on a aujourd'hui affaire à un secteur qui est en plein essor, avec des ordres de grandeur bien plus conséquents. Et on s'aperçoit, la NASA avait notamment mené une étude sur le sujet, et bien que cette combustion, elle laisse des débris, des microparticules comme de l'alumine, résultat de la dégradation de l'aluminium utilisé dans les satellites. Et bien cette alumine, elle pourrait être impliquée dans des processus chimiques participant de la dégradation de la couche d'ozone. Ce sont des travaux encore préliminaires, les agences spatiales commencent tout juste à se pencher sur le sujet. On peut donc pas répondre avec certitude, mais en attendant, certains spécialistes appellent à limiter le nombre de lancements spatiaux. Pas sûr qu'Elon Musk et SpaceX l'entendent de cette oreille, ils en ont déjà fait plus d'une centaine cette année.
Simon Rosé pour la question d'environnement sur RFI.